Salut, vous êtes bien sur la courte échelle. On commence un tout petit peu avant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour mettre une dédicace de l'infâme. Bah pour l'infâme, excuse-moi. Et donc c'est Evanescence, My Heart is Broken. Et c'est parti.
Bonsoir, vous écoutez La Courte Échelle comme tous les dimanches soirs de 19h à 20h, une émission anticarcérale pour parler d'enfermement dans les gardes à vue, dans les HP, en toile évidemment. Voilà, ce soir on est plein dans le studio. Si jamais vous voulez nous appeler, on a toujours le téléphone portable de parloir fixe, il n'y a pas encore de téléphone à galère. C'est le 07 74 66 10 42. On a aussi une adresse où on peut nous écrire et on répond avec plaisir, on lit des témoignages. Si c'est un témoignage, il vaut mieux nous l'écrire en haut parce que des fois on a un doute. L'adresse c'est Rat du Galère, Friche de la Belle de Mai, courte échelle évidemment, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et on a un mail si jamais, c'est la-courte-échelle@riseup.net. Voilà, je vais présenter un peu le monde qui est dans le studio. Il y a Cille.
Coucou.
Il y a Blaise.
Bonjour.
Il y a Yann.
Bonsoir.
Il y a Charlie.
Salut.
Il y a Madou, moi, et on va avoir un appel de Moustapha très bientôt. Ce soir, on a une émission qui est bien chargée. Tu veux peut-être l'introduire, Yann ?
Ouais, parce que, enfin, on avait prévu de faire une émission dédiée aux 50 ans des CRA, de la découverte, enfin du moment où le CRA d'Arin qui est devenu public, du coup en lien avec l'anti-CRA, et ça remplissait toute notre émission.
CRA, c'est du coup un centre de rétention administratif. Oui.
Et vous l'avez sans doute suivi, bon ça du coup on va y revenir juste après, mais vous l'avez sans doute suivi, cette semaine elle était hyper chargée puisqu'il y a eu beaucoup d'événements, notamment en lien avec DDPF, et du coup on se disait qu'on pouvait peut-être... revenir très rapidement sur ce qui s'est passé avant, mais on s'étalera pas trop sur le sujet parce qu'on a une grosse émission derrière et peut-être qu'on en reparlera, on essaiera d'en reparler plus amplement. En tout cas, on va suivre tout ce qui se passe de ce point de vue-là et on essaiera de tenir les personnes à l'intérieur au courant parce que ça nous paraît important.
Ouais, et du coup, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé. Ça a commencé du dimanche à lundi 14. Là, il y a sept voitures qui ont cramé sur un parking de l'école nationale d'administration pénitentiaire à Agen. Et la nuit d'après, il y a aussi eu d'autres trucs. Une voiture et 10 autres tagués dans le 13e arrondissement de Marseille au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse et d'une résidence où vivent de nombreux matons. Il y a aussi eu des bails à Luynes avec deux voitures qui ont brûlé sur un parking du centre pénitentiaire. Ça a été le cas aussi à Nîmes. Il y a eu des jets de trucs qui ont cramé, comme à Valence. Il y a aussi eu une rafale de calash tiré devant la façade de la prison de Toulon, à la Farlède, où il n'y a pas eu de blessés. Et autour de Paris, il y a eu des incendies sur les véhicules du personnel des tôles du centre pénitentiaire de Nanterre et Villepinte. Il y a aussi eu des bails à Tarascon, avec des voitures qui ont brûlé. Je crois que j'ai fait un peu le tour à l'arrache, mais c'est ça qui s'est passé les derniers jours. Et du coup, après ces faits, on va vous lire des communiqués.
Ouais, juste pour compléter, il y avait plusieurs qui ont été signés explicitement des DPF avec des tags écrits.
Ah oui, pardon.
D'autres moins avec parfois des variantes, parfois par exemple, enfin ils ont pas tous été enfin aussi ce week-end par exemple une attaque de un maton qui a 4 voitures dont 3 qui ont brûlé c'est ça arrivé à ce moment-là par hasard, c'est sans doute lié, mais il y avait pas eu de revendication avec écrit des DPF quelque part. Voilà, il y a eu beaucoup d'actes et c'est difficile de savoir. Enfin, voilà. Du coup, en parallèle de ça, il y a un canal Telegram qui a été créé, du coup, à peu près au début, entre samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'il y a ?
On se demandait si on avait donné l'acronyme de DDPF.
Ah oui.
Défense des droits des prisonniers en France.
Oui. Donc, défense des droits des prisonniers français. C'est ça que ça veut dire, des DPF. Et là, il y a eu un canal Telegram qui a été ouvert à peu près au début, il me semble que c'est dimanche, où une grosse part de ces actions ont été communiquées. Et où il y a des textes qui ont été écrits aussi, de revendication. Ça a mis quelques jours à réagir. C'est mercredi qu'il y a des messages qui ont commencé à être supprimés. Et puis jeudi, où le groupe Telegram. A été complètement supprimé par l'application Telegram. Donc, à savoir pour tous les usagers et usagères de Telegram, il est possible que Telegram collabore activement avec l'État. Là, ça a été le cas. Ils ont répondu à leur demande de supprimer le groupe et ils ont donné toutes les infos qu'ils avaient, les adresses IP et tout, à l'État. Voilà, ouais, ça peut être intéressant de savoir que ça peut arriver. Et du coup, oui, c'est un peu ça qui permet aussi de... Enfin, c'est un peu la seule source explicite donnée par les personnes qui ont fait ces agissements pour expliquer leurs actes. Et tous les actes qui ont eu lieu n'ont pas tous été revendiqués dessus. Par exemple, les tirs de Kalash à la Farled, c'était pas le cas. Mais en tout cas, il y a une bonne part qui ont été publiés sur ce canal. Et il y a eu beaucoup de textes. Donc on pensait lire plusieurs d'entre eux. Ça nous paraissait important. Parce qu'en fait, ils sont assez difficiles à trouver par Internet, dans l'ensemble de la presse. C'est difficile d'avoir accès à ces textes en direct. On a souvent quelques extraits, mais pas la totalité. Et ça nous paraissait important qu'ils soient accessibles, quoi, que tout le monde puisse se faire son idée pour comprendre un peu les enjeux de ce qui se joue et en fait, à qui on a affaire. Du coup, voilà. Et donc le premier, juste après s'être présenté comme défense des droits des prisonniers français, il dit « Bienvenue sur le canal officiel des droits des prisonniers français. Ce canal est un mouvement dédié à dénoncer les atteintes à nos droits fondamentaux auxquels le ministre général Darmanin compte porter atteinte. Tous les détenus de France doivent se mobiliser et se réveiller. L'heure est grave, nous entrons dans une ère dangereuse et inquiétante pour l'avenir de la population carcérale. Ce canal nous permettra de recueillir les témoignages de vous, les détenus de France. Nous devons être unis face à cette situation. À l'heure d'aujourd'hui, si en 2025 nous pouvons regarder la télévision, fumer des cigarettes, manger en cellule en toute tranquillité, c'est uniquement parce que nos anciens se sont battus pour ces droits fondamentaux. Ces mêmes droits, qui auraient pu être un automatisme, ont nécessité un combat pour faire comprendre qu'avant d'être des prisonniers, nous sommes avant tout des humains. Pareillement concernant les heures de promenade. Il y a encore 4 ans, nous avions droit à 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi. Aujourd'hui, nous sommes réduits à une promenade l'après-midi, un jour sur deux, et seulement pour une heure. Les coûts des cabines téléphoniques sont faramineux et extrêmement chers. Certains détenus ne peuvent pas se le permettre. Que ce soit les personnes interdites de contacter leurs proches à l'extérieur ou celles avec très peu de moyens. Vu le prix qui s'élève à pratiquement 1 euro la minute, ce qui est très cher pour des détenus, quelle que soit leur classe sociale. La suppression des activités diverses est tout aussi impactante pour les détenus. Pour les personnes en mandat de dépôt, cela permettait de s'aérer l'esprit et, par la même occasion, récupérer les RPS. Mais encore une fois, M. Gérald Darmanin vient dérégler ce processus de réinsertion des détenus. Les surveillants qui nous frappent, qui violent certains détenus, qui exercent des pressions physiques et psychologiques. La plupart des suicides en prison sont dus à l'agressivité de l'administration pénitentiaire et à sa déontologie. Combien sont morts après avoir fait plusieurs mises en demeure sans que la direction ne les prenne en compte? Combien sont frappés dans des salles isolées, hors de portée des caméras? Combien de fois l'abus de pouvoir a-t-il été utilisé pour cacher les circonstances de nombreuses violences des détenus? Sur les détenus, pardon.
Alors, je vais continuer avec donc, d'autres petits textes qui ont été publiés aussi sur ce canal et qui ont été signés des DPF. Donc, école à Agen, où les surveillants sont formés à ne pas respecter les droits de l'homme. Militons contre la torture des Blancs, le rabaissement, la haine que les surveillants nous donnent et nous fait ressentir au quotidien. Nous défendrons les droits de nos frères et sœurs détenus, quitte à donner notre vie. Soyons solidaires. L'union, ils détestent ça. Ils cherchent à nous diviser pour mieux régner. N'oubliez pas les anciens. Dans les années 90, ils ont défendu nos droits. C'est grâce à eux que vous pouvez fumer, regarder la télé aujourd'hui. Nous avons de gros investisseurs derrière la DDPF.
Ok. Moi, je voulais juste dire que... après, on a capté aussi que le parquet antiterror, il a été saisi, qui vient invisibiliser la violence que vivent tous les prisonniers et toutes les prisonnières. Et du coup, il y a une réponse qui a été écrite.
Ouais, il y a cette publication est faite pour mettre les choses au clair. Monsieur Darmanin pense à surfer sur la vague pour faire entendre ce qu'il a envie aux médias. Sachez que nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes là pour défendre les droits de l'homme et de la femme à l'intérieur des prisons. Depuis quelques années, une majorité de surveillants humilient, insultent, violentes les personnes détenues. Quand les détenus se plaignent en faisant un recours, ils finissent à l'opposé de la France ou avec des fouilles humiliantes, répétées, ordonnées par la hiérarchie. Ils ne respectent en aucun cas la loi. Par contre, quand cela les arrange, ils l'appliquent fermement. Les surveillants ne font que se plaindre alors que 80% du temps de leur travail, ils sont dans leur bureau à discuter. Depuis l'affaire Amra, que la majorité des détenus n'ont pas cautionné la mort de ces agents-là, pourquoi se servir d'Amra pour faire du mal aux 82 000 autres détenus? Ça n'a ni queue ni tête. La guerre, c'est vous, Darmanin, qui l'avez déclenchée. Nous, on veut juste que les droits de l'homme soient respectés. Monsieur Darmanin, pendant que vous pensez à vos présidentielles 2027. PS. Monsieur Darmanin, c'était pour vous dire, monsieur Retailleau, il est plus bon que vous. Vous n'allez même pas passer le premier tour aux présidentielles 2027.
Merci. Voilà. Merci pour la lecture. Bon, on va pas beaucoup plus commenter que ça ce soir, mais bon, vous l'aurez compris, ça intervient dans un contexte dont on a déjà un peu parlé avec la loi narcotrafique proposée par Darmanin. On vous renvoie aux émissions précédentes si vous voulez capter un peu les enjeux. Pour ce qui est des luttes des anciens, moi je sais pas ce que c'est, ça intéresse peut-être de comprendre un peu de quoi il retourne. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois.
Oui, carrément.
Je sais pas si voilà, on est en train de recevoir l'appel de Mustapha qui voulait tchatcher un peu de la prison d'Arinque, mais c'est en train de se caler. Du coup, on est un peu en train de gérer ça.
Ouais. Quoi dire? Là, il est en ligne, donc on vous laisse patienter un tout petit peu.
Peut-être qu'on peut. Bon. Puisqu'on ne l'a pas encore dit à l'antenne ici, on en a parlé plusieurs fois, mais il y a Gino qui a été libéré, on l'a dit, le soir, le samedi de fête en soutien à Vivi, mais pas encore à l'antenne sur la courte échelle. Il y a Gino qui a été libéré. Bon, il avait déjà été libéré, mais c'est plus que ça. Son extradition a été refusée depuis, du coup, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Est-ce que...
Donc là, on va lancer l'appel de Mustapha qui sera en direct.
On arrive.
Salut Mustapha, tu nous entends ?
Non, pas encore.
Allô ?
Ah ouais, oui. Ouais, salut, tu nous entends?
Allô?
Allô Mustapha?
Là, je t'entends toi, oui.
Là, tu m'entends? Ok.
Oui.
Ah ouais, on fait quelques petits réglages techniques, ça arrive.
Je vois, j'ai entendu une autre voix.
Est-ce que tu nous entends, nous, quand on parle là maintenant?
Là maintenant, j'entends.
Ah, ok, super. Nickel. Trop bien. Ben c'est parti.
Alors, ce soir, enfin cette semaine, ça fait 50 ans qu'à Marseille, on découvrait l'existence d'un hangar qui servait de prison pour étrangers. Lorsque l'affaire d'Arinque a éclaté en avril 1975, ce qui a été révélé, c'est toute une mécanique de l'expulsion des personnes étrangères illégalisées qui a eu le champ libre pendant 12 ans pour se mettre en place, pour se rationaliser, totalement à l'abri des regards. 12 ans que le tri entre les bonnes et les mauvaises mobilités avait été laissé à la discrétion d'un appareil administratif et policier hérité de la période coloniale. On a découvert que pendant 12 ans, la police et l'administration faisaient ce qu'elles voulaient de toutes ces vies. Bref, il y a 50 ans, à Marseille, en avril 1975, on découvrait l'existence de ce qui allait devenir le premier centre de rétention administrative. Ce soir, en tant que collectif Anticra, on voulait vous raconter l'histoire de cette prison d'Arinque, découverte il y a 50 ans, parce que cette histoire est trop peu connue, voire même invisibilisée, alors qu'elle nous semble révélatrice de toute une logique qui anime encore les centres de rétention aujourd'hui. Longtemps cachée à la population, la prison d'Arinque a quand même laissé beaucoup de traces, des registres, des instructions, des plans, des rapports et des notes de service. Une fois que le scandale a éclaté, il y a eu de nombreux articles de presse, des reportages télévisés et une enquête journalistique. Bref, tout un tas d'archives qui pourraient nous permettre d'en faire l'histoire. Mais ça peut être qu'une histoire. celle de ce que l'administration et la presse de l'époque ont trouvé digne d'être obtenu. Mais derrière ces documents, il y a des vies, des désirs, des souffrances et des révoltes qu'elles n'ont justement pas jugées dignes d'apparaître. Alors c'est pour ça que ce soir, pour raconter cette autre histoire de la prison d'Arinc, on discutera avec Mustapha. Mustapha, t'es encore là ?
Oui, j'écoute, j'entends du temps.
Super. Alors, peut-être première question, est-ce que tu veux raconter,
oui, voilà.
Enfin, te présenter tout simplement ?
D'accord, écoutez, moi j'ai Mustapha Mohammadi, j'ai rien à casser. Je suis militant associatif aujourd'hui parce que je suis vieux, mais à l'époque j'étais militant actif pour. Le droit, pour défendre le droit des immigrés, pour le droit à vivre en sécurité contre les crimes racistes et contre la ségrégation que pratiquaient les différentes administrations vis-à-vis de cette population immigrée qui était complètement abandonnée, délaissée. Donc c'est dans ce cadre-là, et à l'occasion d'une grève de la faim, en 1974-75, c'est-à-dire la fin de l'année décembre 74 jusqu'en janvier 75, où il y avait, juste une parenthèse, c'est que les mouvements, les grèves de la faim, pour avoir le droit d'exister, d'être reconnu comme une personne, ça date depuis 1972. Depuis 72, il y a eu des grèves de la faim, et à chaque fois, il y a eu des répressions, des interventions de la police. Et là, en janvier 1975, dans une grève de la faim à Montpellier, la police en grand renfort a envahi le lieu où il y avait la grève de la faim à Montpellier, ont expulsé, ont chargé, ont tiré par les cheveux les personnes. Les Français, les gens du comité de soutien, ils les ont mis à part, ils les ont renvoyés chez eux, maltraités, insultés. Et les grévistes de la faim, parqués dans des bus, envoyés dans des centres de tri, etc. Et une dizaine, d'après la police, qui étaient des meneurs, etc. Nous avons été embarqués puis emmenés dans les commissariats un peu, mais répartis pas tous ensemble. Moi, je me suis retrouvé avec un autre camarade dans les cellules du commissariat de Montpellier. Et deux jours après, enfin, vous voyez, avec le temps, on ne sait pas si c'est deux jours ou un jour ou trois jours. En tous les cas, une nuit était passée dans ce commissariat. Le lendemain ou le surlendemain, nous avons été embarqués par les gendarmes, et on nous a fait rentrer dans un truc qui, ça ne voulait rien dire. C'était un immense hangar. C'est le fameux centre de Arinc, qui était théoriquement très peu connu, parce que personne ne savait, même les avocats des personnes ne savaient pas son existence. Voilà un peu l'itinéraire rapidement. Alors je tiens à dire que moi, quand on m'a, avec les camarades qu'ils ont appelés des meneurs, ni on a été présenté à un juge, ni il y a eu des procès-verbaux, ni il y a eu des interrogatoires ou quoi que ce soit. On nous a embarqués dans les commissariats, et des commissariats menottes en main, on s'est retrouvés dans des estafettes. Certains ont été amenés par bateau à partir de 7, et d'autres, comme moi, on s'est retrouvés à Arinc, transférés de Montpellier jusqu'à Arinc pour une expulsion rapide. Voilà un peu. Et donc ce centre, je voulais juste préciser une chose par rapport à la présentation, c'est qu'il a existé depuis les années 50, c'est-à-dire même avant l'indépendance de l'Algérie. Il a existé. Ils ont refoulé, expulsé des personnes qui étaient d'origine française à l'époque, puisque l'Algérie n'était pas encore indépendante. Alors, vous voyez, la discrimination avait commencé longtemps avant ces problèmes-là qui ont émergé du racisme après l'indépendance de l'Algérie. Voilà que je voulais juste rappeler ça et comment je me suis retrouvé, moi, dans ce centre. Je ne savais pas ce qui m'attendait. On ne nous a rien dit. On ne savait pas ce qui allait se passer. Qu'on est resté, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si on est resté là-bas 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 2 jours. Tellement c'était un truc surréaliste, un immense hangar avec des immenses cages où on était séparés d'un couloir. D'un côté, les cages qu'on appelait nous les cages, c'était pour les hommes. Et de l'autre côté, en face, on voyait, hein, il devait y avoir 3 ou 4 mètres de distance entre chaque rangée de cages. Il y avait des femmes et c'était énorme, c'était immense, un immense hangar. On ne savait pas à quoi il servait avant. En tous les cas, quand on s'est retrouvé là-bas, il servait à, entre guillemets, parquer les indésirables qui n'ont été, dans la plupart des cas, non jugés, condamnés. Peut-être qu'il y en a eu dans le lot, certains qui ont été peut-être... mais en tous les cas, à l'époque où nous, on est passé, la plupart de ceux qui étaient dans ce centre n'étaient jamais condamnés.
Et quand vous...
Voilà un peu. Et si vous avez d'autres questions précises, je...
Moi, plein, mais déjà, moi, première question, quand vous vous y êtes retrouvé, vous avez jamais entendu parler de ça, genre vous, parmi les travailleurs immigrés, les divers immigrés qu'il y avait en France, vous aviez jamais entendu cette histoire-là de personnes qui avaient disparu, qui s'étaient fait enfermer, ou ça circulait un peu entre vous, vous n'étiez pas trop au courant?
Nous, à cette époque-là, on savait qu'il y avait parce que parmi mes camarades militants pendant les grèves de la faim en 73 et 74 de Marseille, des camarades de Marseille, on savait qu'ils avaient été expulsés, mais on ne savait pas par quel itinéraire ils sont passés. On ne connaissait pas l'existence réel de ce centre, juste pour information, de Marseille en 73, il y avait le prêtre, enfin le qui travaillait à la SIDAM, Berthier Périgaud, qui a été expulsé en Suisse, Maurice Courbage qui a été expulsé en Belgique. Parce qu'il ne pouvait pas l'envoyer. Il lui a rendu un service parce qu'il était militant des droits de l'homme, y compris dans son pays, en Syrie. Donc, ils lui ont fait une faveur. Et comme il était aussi un chercheur, c'est un chercheur qui soutenait la cause des travailleurs immigrés à l'époque. Il y a Mohamed Larabi qui a été expulsé en Algérie. Un autre, Bachir Mani, qui était menacé d'expulsion. Finalement, on a pu mener une bataille et on a gagné, il n'a pas été expulsé à cette période-là. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un mouvement, des revendications, on essayait de réprimer pour qu'il n'y ait pas de contestation. Donc, il prenait quelques-uns qui pensaient que eux, c'était les agitateurs, alors que les mouvements continuaient, puisque il y a eu des victoires que nous avons obtenues à l'époque. Et pour être précis par rapport à la question, on ne connaissait pas, nous, on savait qu'il y avait des expulsions. Il y a des gens qui, en débarquant des bateaux sur le port de Marseille, ils se sont retrouvés enfermés dans ce centre et refoulés chez eux. C'est à partir du moment où nous, une fois expulsés, nous avons expliqué, nous avons transmis aux camarades qui étaient restés là l'itinéraire qu'on a pris, etc. Puis avec le travail de l'avocat qui a été fait en 75, que le scandale a éclaté. Alors qu'au niveau de la préfecture, au niveau... ils étaient tous au courant. Votre camarade là qui venait de présenter le truc, il a parlé des archives, etc. Il y a des traces écrites. Alors, juste pour préciser une information par rapport à la présentation qui a été faite, c'est que les archives ont toujours existé, mais les archives du commissaire qui gérait ça dans le port de Marseille ne les a jamais transmises quand il est parti à la retraite, ni à la préfecture de police, ni au ministère de l'Intérieur, ni à la direction de la police. C'était son bien à lui. Quand il est parti, avant de partir à la retraite, il les a déposés aux archives départementales. Donc c'est pour ça, il n'y avait pas de traces pour d'éventuels chercheurs qui demandaient des informations auprès de la police ou de la justice, puisqu'ils n'avaient pas des traces de ce qui se passait à Rennes.
Et du coup, vu que, comme tu l'as dit, il y avait une volonté tout à fait claire de cacher tout ce qui se passait dans ce centre et de cacher juste l'existence de ce centre, est-ce que tu veux raconter un peu comment ça a pu enfin être révélé, comment ça a pu sortir de...
C'est vrai qu'il y avait une volonté de cacher, mais bon, c'était une volonté de cacher le non-respect des règles de la République par les dépositaires de cette autorité républicaine. C'est les responsables qui en ont tout fait pour étouffer, pour que tout ce qui se passait là-bas, tout ce qui se faisait, restait caché, que ce soit au niveau préfectoral, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, etc. Moi, je dirais même plus, avec le recul. Un truc comme ça, un hangar, un truc comme ça, où la police régulièrement accompagne des personnes menottées et qu'on fait rentrer dans un truc ou dans un hangar, etc., sans droit de visite, personne ne les voit, et qu'après ils les sortent, des fois c'est la nuit quand il y a un vol, la nuit, ou quand il y a un bateau qui part la nuit. Donc, mais je dis bien mais, dans cet espace qui est le port de Marseille, qui est immense, où il y a les dockers, où il y a les autres policiers, il y a les autres personnes qui travaillent dans le port, il faut pas nous faire croire qu'ils n'étaient pas au courant, ils ne le savaient pas. Et, y compris des gens, des militants ou des simples syndicalistes qui étaient dans le port, ils le savaient forcément. Il y avait la loi de l'omerta, c'est-à-dire il faut rien dire, il faut pas parler. Et les gens, quand ils voient quelqu'un menotté, emmené, ils doivent se dire celui-là, il a quelque chose à se reprocher. Donc il y avait cette volonté d'étouffer jusqu'à ce qu'un avocat qui avait un client. Et le jour où son client avait un sursis et qu'il devait sortir de chez le juge, il n'est pas sorti de chez les juges, la police l'avait embarqué. Et le fourgon de la police, la famille de cette personne-là, ils ont vu que leur proche n'est pas sorti alors que l'avocat leur a dit il va sortir, ça y est, le juge a décidé un truc pour qu'il sorte, et ils ont vu que la police l'a embarqué, il n'est pas sorti. L'avocat, quand ils l'ont rappelé en lui disant voilà ce qui se passe, il leur a dit écoutez, suivez ce fourgon et vous me dites tout ce qu'il est allé. Et c'est comme ça que la famille a suivi le fourgon de la police où il y avait la personne. Et le fourgon est rentré dans le port. Eux, ils n'ont pas pu rentrer, mais ils ont suivi un peu la trace. Et c'est comme ça que l'avocat s'est rendu compte qu'on lui cachait quelque chose, puisque quand il interpellait le parquet, ils lui disent mais ça y est, on lui a accordé le sursis, il est en sursis. Il appelle la police, ils disent la police, non, on ne connaît pas, on ne sait pas, on l'a pas chez nous. Il est dans aucun commissariat. Voilà, etc. Et il se trouve que l'avocat n'a pas baissé les bras. Il ne comprenait pas, il voulait aller jusqu'au fond de cette histoire où il est parti. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il a, en enquêtant, en allant chercher où il était son client, et qu'il est tombé sur ce centre de rétention. Et il a mobilisé, entre autres, il y avait un journaliste, je crois, qui s'appelait Alain Panzani à l'époque. Il était à l'époque de gauche, je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui. Et c'est comme ça, il a alerté les journaux de l'époque, entre autres Libération, Témoignage chrétien, je crois l'Humain, il y avait plein de journaux qui sont saisis de ça, y compris la presse algérienne qui avait envoyé un journaliste qui a enquêté là-dessus. Voilà un peu, et c'est comme ça que le scandale a éclaté. Et les autorités de l'État, judiciaires, policières, etc., ils ont essayé de nier, jusqu'à ce qu'il y ait plein d'articles et des reportages de radio, de télé, où le scandale au niveau des instances du gouvernement, au ministère de l'Intérieur, le Parlement, et tralala. Alors, le centre d'Arinc, l'État n'a pas été condamné, puisque tout de suite, ils l'ont légalisé par la loi, il est devenu légal, et du coup, ils ont créé d'autres centres. Voilà. C'est-à-dire, le truc inhumain est devenu quelque chose de légal et acceptable, qui sont aujourd'hui les centres de rétention, là. Voilà un peu comment on a réglé le problème d'un truc illégal, inhumain. Il est resté inhumain, mais il est devenu légal. Parce que le législateur a décidé qu'il soit légal.
C'est bien dit.
Et à l'époque, est-ce qu'il y a eu quand même des formes de mobilisation, je veux dire, même avant que ça devienne légal? Et comment t'expliques que justement elles ont échoué ou que ça ait pu rentrer dans le droit?
Il y a eu, notamment à Marseille, il y a eu un collectif d'Arinc hein, qui a fonctionné dès que le scandale a éclaté. Il y a eu un collectif pour Arinc, il y avait des manifestations, il y avait une mobilisation à l'époque de militants, des associations qui étaient mobilisées contre la prison d'Arinc avant qu'elle soit légalisée.
Donc, oui,
il y a eu un collectif qui a fonctionné, pendant longtemps, jusqu'aux années 70, 78, je pense. Je sais que la semaine qui vient, il y a une rencontre avec un collectif de Bouba et un syndicat qui organise une projection là, du film à Hangar sur le port avec le réalisateur. Ça a commencé, et le fait qu'il y a eu ce documentaire qui a sorti de l'anonymat ce scandale, c'est déjà une bonne, à mon avis, une bonne chose. Or, ne serait-ce que pour les victimes qu'on n'a pas... C'est-à-dire, en gros, on vous embarque, on vous met au centre de Arinc, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et vous ne savez pas où vous allez partir ni quand. Et le problème, c'est que la plupart de ceux qui sont passés par Arinc, une grande partie ne sont jamais revenus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ou bien ils sont revenus par un autre billet, puis ils sont restés discrets, etc. C'est-à-dire que... Il n'y a pas eu de témoignage. Le seul témoignage qui avait existé avant la reconnaissance, etc., c'est ce qui était apparu par la presse après le scandale qui a éclaté, après les articles et tout ça, jusqu'à la légalisation. Là, ça commençait à bouger, les gens surveillés de plus près, les membres de leur famille qui étaient arrêtés, etc.
Bah, c'est clair que...
Voilà un peu. Mais la mobilisation, je sais que sur Marseille, en tout cas sur Marseille, il y a eu un collectif de Arinc qui a fonctionné dans les années 70-78, Ah, jusqu'en 79, quitté mobilisation, il y a eu des manifestations hein, pour dénoncer l'existence du centre de Harenque. Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, à vos questions.
Oui, grave. Mais par exemple, dans ce que tu dis, un peu, enfin, t'es en train de dire qu'il y a des personnes qui sont passées par le centre, qui sont revenues après, mais qui ont, elles, n'ont pas osé prendre la parole. Et qu'il a un peu fallu attendre que ce soit un avocat qui soit pas dans la même situation administrative qui s'empare du sujet pour que ça puisse sortir parce que il y a que lui qui avait la possibilité d'être écouté puisque en fait les autres sans-papiers on les écoutait pas et j'ai l'impression que le film ça sent un peu dans le film quoi il y a la parole elle est beaucoup donnée à cet avocat là vraiment je sais pas ce que toi t'es passé avant du coup t'es passé avant le scandale
C'est-à-dire que la plupart de ceux qui sont passés par Harenque, il n'y avait pas un arrêté d'expulsion. C'est pour ça que je dis ils ont légalisé en faisant passer les internés dans ces centres de rétention, ils les ont fait passer par une décision judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester. À l'époque, il y avait pas ça. La plupart, peut-être, il y avait quelques-uns qui étaient condamnés, qui devaient quitter le territoire par un arrêté de justice après enquête, après arrestation, enquête, etc. Il devait y avoir quelques-uns. Mais la grande majorité des pensionnaires du centre d'hébergement clandestin d'Harenque, la grande majorité, c'était ou ceux qui descendaient du bateau, qui sont arrivés par avion tout de suite, on les a refoulés, et en attendant qu'ils repartent, ils étaient à ce centre, ou des personnes comme moi, arrêtées par la police après une manif, après une rencontre, après un contrôle, etc. Et qui ont été tout de suite de la police à la police qu'ils avaient installée à Harenque. Donc sans respecter les procédures légales ici en France, à savoir... on te présente à un juge, le juge te signifie ton expulsion, ton retour, d'aller en prison, etc. Quand vous êtes en prison, il y a le droit de visite. Tes proches, ton avocat peut venir vous voir. Tu peux correspondre, tu peux téléphoner. Là, à Harenque, il n'y a pas de possibilité de communiquer avec l'extérieur, parce que personne ne sait où vous êtes. Vous-même, vous ne savez pas où vous étiez. Il n'y avait ni le moyen de téléphoner, ni le moyen d'appeler quelqu'un. Vous rentrez, même les personnes qui surveillaient, qui gardaient à l'intérieur de Harenque, ils ont le nom, le prénom et un numéro des personnes qu'ils ont. C'est tout. Si il faut peut-être discuter avec eux pour leur dire écoutez-moi monsieur moi j'ai rien fait et te dis moi j'ai rien à voir là-dedans, on vous a mis ici, moi je vous surveille ici jusqu'au moment où ils vont venir vous prendre. Voilà un peu le seul échange qu'on avait avec les personnes qui gardaient.
Ouais, du coup c'était impossible pour les personnes qui passaient dedans quand elles étaient dedans de faire savoir ce qui leur arrivait et après ils avaient tellement... Pour les personnes qui passaient dedans, c'était impossible de communiquer avec l'extérieur et de dire ce qui leur arrivait. Et une fois qu'elles étaient sorties, personne ne les aurait cru parce qu'il n'y avait aucune trace, quoi.
Il n'y a pas de trace, impossible. Moi, vous pouvez aller chercher, là, je vous parle. Si on écoute mon truc, ils essayent d'aller me chercher, voir comme ça. Je ne pense même pas qu'ils aient noté sur le livret mon vrai nom, mon vrai prénom. Non, puisque... ils peuvent remonter pourquoi et comment j'ai été arrêté. Mais il n'y a aucune preuve.
Pour les personnes dedans,
que je sois passé par là-bas, puisqu'ils ont, ils ne gardaient que des numéros et du prénom. Quand je dis il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun procès verbal. Fait par un juge qui me signifie de quitter le territoire.
Et...
Vous voyez un peu le scandale. Et moi, je pense, à l'époque, on ne va pas faire le procès des gens de l'époque qui étaient là-bas, qui travaillaient dans le port, dans les différents services, et les policiers, et le personnel du port, avec leurs différents syndicats, avec leurs différents mouvements, etc. Bah, il ne faut pas dire qu'ils ne savaient pas des choses qui n'étaient pas normales qui se passaient.
Oui,
mais peut-être que ce n'était pas leur priorité à l'époque.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'au-delà de la matérialité même du centre qui empêchait que la parole des gens enfermés sorte, il y avait peut-être aussi un contexte qui faisait que la parole des gens qu'on enfermait dedans, de toute façon, était assez peu relayée.
Oui, mais on n'avait pas, c'est simple, on est emmené par des gendarmes ou des policiers, on nous fait monter là-haut. C'est un policier qui ouvre le hangar, qui fait rentrer les personnes qu'il a accompagnées. Il lui signe le papier comme si c'était une marchandise qu'il vient de livrer. Lui, il repart, il rentre dans son service ou dans le patelin d'où il est venu. Les autres, ils referment la porte derrière. Mais le port continue ses activités, ça continue, ça va, ça vient. On charge et on décharge les bateaux. Et quand vous êtes à l'intérieur, comme c'est en hauteur, c'est très haut, tout est enfermé, vous pouvez même pas crier, même si vous criez avec le bruit qu'il y a dans le port, personne ne vous entend. Donc, et d'autant plus que personne ne savait l'existence de ça, donc vos proches, s'ils savaient que vous avez été arrêté, ils peuvent chercher partout, le commissariat, ils demandent à la justice, à la prison, si vous êtes arrêté en prison, etc. Là, il n'y avait pas de traces. Voilà un peu le...
Ouais. J'imagine que...
Écoutez, en tous les cas, je vous remercie à l'intérêt que vous portez à cette partie
c'est nous qui te remercions.
De ces personnes qui ont été maintenues dans l'ombre, avec un déni de leurs droits, de leur existence, de leur personnalité. J'espère que ça aura un écho pour qu'à l'avenir... on n'est pas ce genre de choses qui se reproduisent ici.
Après, ça existe clairement encore. Hein. Les crimes, maintenant, comme tu disais tout à l'heure.
Ils l'ont légalisé. Le problème, c'est qu'ils l'ont légalisé. Et alors, il faudra changer les lois.
C'est clair.
Il faudra changer les lois. Bon, comment bon, je ne sais pas. Comme dirait l'autre, il faut prendre le pouvoir. le pouvoir, je parle au sens moral. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup
à toi. C'était trop cool de t'avoir.
À l'occasion, peut-être on se croisera, on se verra, on prendra un café.
Ça serait chouette.
Ensemble et on continuera l'échange.
Ouais, on a plein d'autres questions, on pourra faire un épisode 2. C'était trop bien.
Et merci pour tout ce que tu nous as partagé ce soir.
Merci. Je vous remercie, je t'en prie. C'est la moindre des choses. Allez, bonne soirée. Hein.
Bonne soirée. Merci à toi aussi, à bientôt.
À vous et à vos auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci.
Et bien après, peut-être on va faire une petite pause musicale maintenant et on reprendra l'antenne de la courte échelle après Made in France.
Ça roule. On n'a pas du tout passé de d'extrait. Ça manque. Ouais, super. Eh bien, on part avec Made in France.
Made in France, pas made in Taiwan. Ok. J'suis pas made in France quand j'vois les étudiants devant le Crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipende, ça faisait longtemps. Normal que j'prenne les premiers coups si j'suis toujours en avance sur mon temps. J'suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y'aura jamais à changer les rôles. J'me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, Frantz Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. J'suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichi. Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches du dropshipping. J'suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre. Avec leur super tower que des indiens soudèrent. Ils ont démoli l'immense départ de jeux pour tout âge. Les bâtissants salissant le blast d'Ibn Battuta. Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas made in Qatar, ni que le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de samposeurs. De Népalais, de Sri Lankais et Philippins. Mille vies venues d'un par conteneur comme parquette de filet d'Inde. J'suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. Je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques. Croire refaire l'image de son peuple à la chirurgie plastique. Je suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak. Y'a eu du chemin de fait depuis que les Noirs luttèrent. Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. À Thanksgiving, ils se souviennent des Indiens. En génocide dans toutes les dindes et passent au Black Friday le lendemain. Pas de calumet, allume les Noirs avec des armes de taille humaine. Pas besoin de détailler, c'est la mentale états-unienne. Je suis pas made in Africa et toute sa corruption. Vouloir être l'égal de l'Europe, c'est clairement manquer d'ambition. Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses. Où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses. Je suis pas made in Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad. Qui font payer les vieillards, plus de 3K le pèlerinage. Pas made in El Madina. Si mon père m'a donné ce blaze, c'est pour honorer son sable, pas pour surfer sur l'histoire. Made in France. Made in France. Made in France. Made in France. Pur produit des pays pauvres. Je suis un palmier du pays de Caux. De la France périphérique comme Adama. Oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, je suis médiéniste de gauche. Entre un démon NOS et Pierre Desproges. Chaque fois que je rappe, y'a v'là les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. Chez qui y'a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi. Quand ils s'adressent à l'un de nous comme pépita dans pyramide. Prends des coups de matraque dans le pif comme des tests antigéniques. Si tu loues, c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des Émirats. Ou bien l'essence de Total pour les bateaux de la jeune Birman. Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus mal médicalisés. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Disent que c'est nous qu'appelons meurtre, envie de gerber jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège ou l'État se protège de nous? Je sais plus si la France ça s'épouse, si on s'en passe ou on s'étouffe. Je sais plus si je dois militer ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non mixité? Pour me sentir intégré, j'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut. Quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres.
Salut, vous êtes toujours sur la courte échelle. Radio qu'on émission contre toutes les tôles. Et du coup, bah, là, on vient d'entendre Made in France de Médine. Mais surtout, avant, on avait Mustapha qui a discuté avec nous au téléphone et qui nous a parlé de ce qu'il a vécu, notamment au premier crack à exister, qui était à Aranc, à Marseille. Et... Il y a Passy qui devait nous appeler, mais qui dit que c'est sur messagerie. Du coup, on va discuter un peu en attendant que ça fonctionne à la technique.
Du coup, pour pouvoir l'entendre. Si t'es encore là, Mustapha, mais vraiment merci, c'était hyper carré comme témoignage. C'était hyper clair. Merci beaucoup. Parce qu'en attendant l'appel, il y avait peut-être dans l'appel que lui l'a fait, il parlait d'un événement du coup organisé à Solidaire par le SAF, SAF, donc je crois que ça veut dire Syndicat des avocats français. Je sais pas s'ils ont les mêmes positions anticarcérales que nous, mais intéressant quand même d'aller voir le film, bah, le film que un hangar sur le port, qui est quand même plein, enfin qui a un contenu cool pour comprendre un peu ce qui s'est joué et qui revient bien sur sur des images d'archives et tout, sur, enfin il y a du contenu quoi, il y a des informations.
Et on voit Mustapha.
Oui. Et comme je disais, c'est vrai que on voit beaucoup l'avocat, la parole elle est beaucoup donnée à lui et pas forcément énormément à des personnes qui sont passées, mais j'imagine que c'est difficile à trouver et quand même ça reste carré en termes de contenu. Et du coup ce sera à Solidaire, donc 29 boulevard Longchamp à Marseille, le jeudi 24 avril à 19h. Donc le 24 avril à 19h. Et je crois que l'appel arrive.
Ouais, on va bientôt pouvoir entendre Passy. Mais peut-être on peut parler en attendant de...
Je crois que... Ah. Est-ce que tu nous entends ?
Coucou.
Allô ?
Ah ouais, allô ? Super.
Ouais. Coucou. Je vous
entends. Salut.
Coucou Passy, ça va ?
Ouais, ça va, je suis à l'antenne là ?
Ouais, t'es à l'antenne, on t'entend. C'est bon.
Okay. Salut tout le monde. Et moi, c'est Passy. Et je fais entre autres partie du collectif Anticra Marseille. Et bah, déjà, je tiens à remercier Mustapha et de son témoignage. C'est vraiment en or d'avoir des témoignages et des retours comme ça. Ça fait un beau. C'est un beau cadeau de lutte et de transmission de lutte. Donc voilà, je tiens encore à remercier Mustapha. Et je crois que si je... Vous m'entendez, oui.
Oui, c'est bon.
Très bien.
Je crois que si là je suis à l'antenne, c'est parce que je dois un peu parler du collectif Anticra, c'est ça ?
Grave.
Carrément, si ça te le fait.
Alors l'Anticra, en tout cas celui de Marseille, il existe, il a commencé à se former petit à petit autour du Covid. Je ne sais plus si c'était juste avant ou pendant le Covid, mais du coup ça fait depuis à peu près 2020-2021 qu'il a commencé doucement à se mettre en place. Et donc c'est un collectif qui lutte contre l'existence des centres de rétention. Et en général, contre toutes les prisons et aussi le racisme d'État. Et les centres de rétention administrative, c'est des prisons qui servent l'État français à enfermer les personnes qui n'ont pas les bons papiers, entre parenthèses, les bons papiers français. Ou en tout cas, les papiers que la France considère de valides. Dans le collectif, on croit que pour faire fermer les centres de rétention administrative, les CRA, je vais dire maintenant, ce sera plus rapide, il faut lutter avec les personnes qui y sont enfermées, donc c'est-à-dire être en contact avec eux et elles, faire sortir leurs paroles, soutenir et aussi relayer les révoltes qui ont lieu à l'intérieur et tous les signes de lutte, parce que il y a souvent une habitude de parler des CRA et des personnes à l'intérieur de manière victimisante, comme si c'était uniquement des personnes, passives, alors qu'en fait, c'est aussi des personnes qui sont dignes et qui continuent en fait à être dignes à l'intérieur d'un centre de répression, d'un centre de répression. Oui,
le lapsus.
Et du coup, en fait, que c'est des personnes actives de leur propre vie aussi et qui sont pas pas avoir un discours victimisateur et notamment nous on essaie de relayer leurs paroles à travers plusieurs outils. Donc on a un site internet dont je me rappelle plus l'URL. C'est... Je ne sais pas si on a un parmi vous qui le connaît par cœur de tête.
Par cœur de tête, non, mais c'est un noblog. C'est, je pense, marseilleanticra.noblog.org. Je peux le retrouver.
Ouais.
Donc, ouais. Ouais.
Sur nos réseaux sociaux, on a notamment un Instagram et un TikTok qu'on essaie tant bien que mal de comprendre comment ça marche.
Non, juste pour le préciser.
C'est un peu mal, hein. C'est pas trop notre génération, je crois. Et aussi grâce à la radio, donc là notamment avec la courte échelle, où on sait qu'on peut participer et prendre la place à ce moment-là. Et on s'attaque aussi et on dénonce tous les acteurs, toutes les entreprises qui rendent l'existence des CRA possible, que ce soit la police, mais aussi voilà, les institutions, tout qui collabore à faire que le CRA y vit. Et voilà. Et aujourd'hui, on souhaitait parler de la prison clandestine de Haringue, du dépôt d'Haringue, parce qu'en fait, voilà, ça fait 50 ans et plus, et ça nous semblait être plus qu'important de parler de ça. Et après, peut-être les autres personnes à l'antenne, il nous reste quelques minutes, on peut un peu donner des infos sur la situation aujourd'hui des centres de rétention.
Peut-être juste pour compléter ce que tu venais de dire, donc l'URL du blog, c'est marseilleanticra.noblogs.org, et l'Insta, c'est marseilleanticra.noblogs.org sur Insta. Voilà.
J'ai oublié de dire, on a aussi un téléphone.
Oui.
Le collectif, on a aussi un téléphone qui sert à prendre contact avec les personnes à l'intérieur, donc... à l'intérieur, mais aussi, par exemple, les proches à l'extérieur. Mais si vous voulez nous contacter, vous pouvez au 07 58 05 71 30. 07 58 05 71 3 0. Et voilà. Et on a peu de temps, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de prendre... De faire des allers-retours entre les années 70 et la prison clandestine d'Haringue et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui a continué, qu'est-ce qui a été modifié, tout ça. Et voilà. En tout cas, des CRA, aujourd'hui, il y en a beaucoup en France et il y en a plein en construction ou avec des projets à construire et c'est vraiment nul.
Oui, voilà. Il y en a même exactement 25 des CRA en ce moment, si je ne me trompe pas. Et ça parle du coup de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont enfermées chaque année dans les CRA, en fait.
Localement, en construction, il y en a sans doute un à Béziers et un à Aix qui sont prévus, localement.
Ouais.
Et plein d'autres veulent doubler la capacité de rétention, globalement.
J'essaie de retrouver une image que j'avais vue et qui disait exactement le nombre de personnes, j'essaie de retrouver en même temps, de personnes qui avaient été enfermées en 2023. Et c'était vraiment, je crois que c'était, attendez, je vous dis ça tout de suite.
En attendant, peut-être je peux dire que au CRA de Marseille, c'est un CRA qui enferme 136 personnes. Et qu'il y a des liens très forts, c'est un lieu d'enfermement et qu'il y a des liens très forts avec la tôle, avec pas ou peu d'accès aux soins et que les personnes à l'intérieur subissent la violence, là pas des matons mais des keufs de la police aux frontières, de la PAF. Et à la différence de la tôle, c'est possible de rendre visite aux personnes sans permis de visite. Et si jamais vous avez envie de faire soutien, c'est possible de se mettre en lien avec l'Anticra au 07 58 05 71 30 ou sur l'Insta Marseille Anticra pour faire du soutien aux personnes à l'intérieur, relayer leurs paroles, leurs luttes qui sont faites tous les jours.
Peut-être on peut dire en deux mots ce qui a été fait pour, à part cette émission, pour parler un peu de... des 50 ans du CRA d'Haringue. Enfin, il me semble qu'il y a eu...
Ouais, carrément. Toute cette semaine, il y a eu une campagne de collage et d'affichage dans la ville de Marseille qui donnait des informations sur, en fait, c'était quoi le centre de rétention et sur le fait qu'il y avait une prison clandestine, dont le nombre de personnes en 2023, c'est 46 000 955 personnes qui ont été enfermées. Donc, il y a eu pas mal de collages dans l'ensemble de la ville. Et aussi, mercredi, il y a eu ce qu'on appelle un parloir sauvage. Donc, c'est-à-dire aller faire un petit salut avec un peu de musique aux personnes qui sont enfermées dans le centre de rétention de Marseille. Et voilà, ça a été... les personnes à l'intérieur l'ont entendu et comme on a des contacts à l'intérieur, ça leur a fait plaisir et voilà, aujourd'hui à la radio. Et ça continue.
Et ben, Pacide, trop merci de nous avoir appelés ce soir et d'avoir participé à l'émission.
Merci, merci. Bonne continuation.
Ciao, oui, ciao. À toi aussi. Merci beaucoup. Il est 20h passé, mais moi, j'avais envie de prendre une petite minute. Plutôt, au début de l'émission, on a parlé de ce qui a pu se passer devant... plusieurs prisons et aussi des lieux de résidence de Mâton et on a lu aussi des communiqués qui ont été écrits par la suite et moi j'avais envie de parler un peu de la répression en fait dans toute cette histoire. On sait que le parquet antiterror il a été saisi en réaction à tout ça et que ça a été justifié pour des moyens d'enquête. Mais j'avais aussi envie de parler du fait qu'il y a eu des tracts écrits par un syndicat de Mâton, le SPS, qui demandait notamment que l'armée protège toutes les prisons et aussi qu'il y avait un autre tract qui demandait à ce que les ERIS, ELSP, puissent garder leurs armes en dehors de leur taf. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ces bails-là. Et aussi le fait qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de cabine pendant 2 jours. On s'en est rendu compte le 17 et le 18 avril, c'était impossible... De laisser des messages à nos proches et nos proches ne pouvaient pas nous contacter à travers les cabines, ça pendant 2 jours. Voilà, sur les bails de répression voilà. Que j'avais envie de vous partager.
Oui, donc cette histoire d'appel qui n'était pas possible, c'était partout en France. Donc on ne sait pas trop pourquoi, c'était peut-être probablement en lien avec...
Apparemment le réseau aurait... buggy.
Partout en France.
À d'autres. À d'autres.
Oui. C'est
moi, je pouvais appeler
numéro,
les collègues.
En fait.
Non, bon, bref,
enfin, là, on parle d'un lien intérieur-extérieur qui n'existe plus pendant 2 jours. Okay. Voilà, on est là-dessus.
Ouais.
Je pense qu'on va. Il y a encore plein de trucs à dire, mais on va rendre l'antenne parce qu'il y a sur le fil qui vient de se lancer. On est le troisième dimanche du mois, on est surpris nous-mêmes. Mais dans le PC Prog.
A priori, okay. Oui. L'émission qui est en cours, qui va suivre, c'est sur le fil.
Du coup, on passe pas notre dernier son?
Bah...
Parce que moi j'ai l'impression que il est mis à distance la semaine dernière.
Bon, c'est pas
il
si.
A été remis au début.
Je sais pas si on peut se permettre de faire ça toutes les émissions.
Ok.
La semaine prochaine, on vous mettra un nouveau son d'une collègue qui est Tarpambin.
Grave, une petite exclue, on vous la fera écouter la semaine prochaine.
Voilà. Plus qu'une semaine à attendre.
En attendant, on souhaite plein de force à toutes les personnes à l'intérieur, comme d'habitude. On remercie...
Encore plus que d'habitude, même.
Toutes les personnes... Ouais, encore plus que d'habitude. On remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission ce soir. Que ce soit Mustapha, Blaise, ça régale.
Pas si.
Wow. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci encore pour l'écoute.
Et gros big up à Vivi, Delphine, l'infâme Zouzou. Je pense fort à vous et à toutes les personnes à l'intérieur et leurs proches. Force à vous.
Force à vous. Il n'y a pas d'arrangement. Crève la tôle. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.